tous, vous êtes dans le collimateur de l'actualité. Kerwin Maïzou, Gianni Missouri, Magloire Timbi, à retrouver sur la chaîne YouTube Kerwin Maïzou, sur www.sudglobalradio.net et sur votre lecteur de podcast favori. Merci de nous suivre, merci de partager, merci de vous abonner et merci de commenter. Nous restons à l'écoute de vos suggestions et propositions. C'est le troisième numéro du collimateur de l'actualité. Il est consacré aujourd'hui à la crise de la démocratie dans le monde. Pour en parler, nous avons un invité. Il s'appelle Souhel Chicha, professeur d'économie au Williams College de Williamstown dans le Massachusetts, aux États-Unis. Souhel Chicha, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci de m'avoir invité. Mbote Nasali, Naisengo, Yako Solola, Nabino, Esali Yamutuya, Ponobiso, Bandeko ya Afrika, Tusolola, Lokola Libota, Pona Afrika, Esali Ndako Nabiso Nyoso, Matondo Mingi Ponapo Bengesi Ngai Awa.
Vous l'aurez compris, Souhel Chicha a habité dans une vie antérieure à Matongé. À Matongé, c'est le quartier le plus congolais de Bruxelles. Et là, il a appris à parler Lingala. Il ne le fait pas souvent, mais là, on a une occasion aujourd'hui. Et c'est avec plaisir, donc, qu'il nous fait cette salutation en Lingala. Avec moi pour la discussion ce soir, l'inamovible Kerwin Maïzou et à la régie, le non moins sémillant Vianney Missumbi. Kerwin Maïzou, bonsoir.
Bonsoir Magloire, bonsoir Souhel Chicha. J'ai beaucoup apprécié son Lingala et ce qui m'a encore... Bon, il a parlé vraiment Lingala grammatical. C'est que nous autres, on a perdu l'habitude et je lui dirais... en Lingala, Mbote, Souhel, Chicha, Oyazali, Mbote, Isito, Molakisi, c'est Brooks College, hein? Brooks yeah. College, na Massachusetts. Et Oyo, Azali, moi, na Yamatongé, pas moi, na Yamatongé, à Kinshasa, mais moi, na Yamatongé, à XL, Belgique. Content de vous entendre parler ma langue.
Ah ouais.
Merci. Kerwin Maïzou, vous le connaissez, il est journaliste dans le groupe Radio France. Il intervient notamment aux côtés de Claudie Suer sur Radio France Internationale et aussi comme analyste dans plusieurs radios périphériques africaines. À mes auditeurs, je voudrais personnellement dédier cette émission à la mémoire de quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. Il s'agit du frère Masumbuko Mununguri. Il a été mon professeur d'esthétique en cinquième année du secondaire et nous avons depuis cette époque gardé une grande amitié. Il nous a quittés au début du mois de février, il nous a quittés le 11 février. Je garde, comme beaucoup de ses anciens élèves, un souvenir indélébile. Que la terre de nos ancêtres le soit douce et légère.
Amen.
Souhel Chicha, Kerwin Maïzou, encore une fois, merci d'être là ce soir. Avant d'aborder le vif du sujet de ce soir, notre fil rouge étant la crise de la démocratie dans le monde, il faut dire que l'actualité nous rattrape. La Russie a lancé une attaque contre l'Ukraine il y a près de 72 heures. Je vous laisse écouter le président Poutine argumenter sur la décision d'entrer en guerre contre son voisin. Et ensuite, je vous demanderai votre sentiment là-dessus.
Chers citoyens russes, chers amis, aujourd'hui, il me semble nécessaire de revenir sur les événements tragiques qui se déroulent dans le Donbass et sur les questions clés liées à la sécurité de la Russie. Je vais commencer par ce que j'ai dit dans mon discours du 21 février de cette année. Je me réfère à ce qui nous préoccupe particulièrement, à savoir les menaces fondamentales que font peser sur notre pays de manière démesurée et arrogante, pas à pas, année après année, les hommes politiques occidentaux irresponsables. Il s'agit de l'expansion de l'OTAN vers l'Est, du fait que ses infrastructures militaires s'approchent des frontières de la Russie. On sait très bien que depuis 30 ans, nous nous efforçons avec persistance et patience de parvenir à un accord avec les principaux pays de l'OTAN sur les principes de sécurité égale et indivisible en Europe. En réponse à nos propositions, ça n'a toujours été que soit des tromperies et des mensonges cyniques ou des tentatives de pression et de chantage, alors que l'Alliance Atlantique, malgré toutes nos protestations et préoccupations, ne cesse de s'élargir. La machine de guerre est en marche et, je le répète, elle s'approche très près de nos frontières. Pourquoi tout cela arrive-t-il? Pourquoi cette attitude arrogante consistant à parler dans l'optique de sa propre exclusivité, infaillibilité et permissivité? D'où vient cette attitude indifférente et dédaigneuse à l'égard de nos intérêts et de nos demandes absolument légitimes?
Voilà, c'était Vladimir Poutine que vous venez de suivre. Comment est-ce que vous réagissez à cette situation préoccupante qui se passe actuellement en Ukraine? Monsieur Souley Chicha, prenez la parole.
D'accord, oui, je pense, ok. Il est difficile, en quelques mots, d'avoir une parole sur la question, étant donné la guerre des récits médiatiques, mais également des censures que se font la Russie et ce que je vais appeler le blanc triarcat, pour dire en même temps l'Europe de l'Ouest blanche, parce que je me considère également comme européen, mais un européen qui n'a pas grand-chose à dire en Europe, et les États-Unis, et évidemment dominés par l'Amérique blanche. Alors, je n'aime pas beaucoup Poutine, j'expliquerai par la suite, parce que je n'aime pas le concept d'État, que je développerai par la suite, mais force ici est de lui donner raison. Déjà, des diplomates américains, dont le père du concept de containment, qui a été le concept clé de la guerre froide en 1998, a écrit dans un grand journal américain que le début de l'expansion de l'OTAN vers l'Est qui se faisait à l'époque avec l'intégration de pays comme la Pologne ou la Hongrie était le début d'une nouvelle guerre froide. L'histoire lui donne raison. Alors, on est toujours dans une guerre froide. Il faut rappeler que l'OTAN est le contrepoids impérialiste qui maintenait un équilibre avec le pacte de Varsovie, que celui-ci a été dissous, qu'on se pose dès lors la question de la mission de l'OTAN, et qu'on soit d'accord ou pas, les Russes considèrent l'expansion de l'OTAN vers l'Est comme une menace existentielle. En 2017, les minutes de la rencontre entre Gorbatchev et Becker ont été déclassées par la sûreté américaine. Et on peut y lire clairement que les Russes ont donné leur aval à la chute du mur de Berlin, en disant qu'ils n'allaient pas tirer, qu'ils allaient laisser les gens passer, à la condition expresse que l'OTAN ne s'étendrait pas vers l'Est. À l'époque, les USA s'y sont engagés, l'URSS s'est effondrée, les États-Unis n'ont pas tenu leur parole, n'ont cessé progressivement de s'étendre vers l'Est. Et là, ils sont à la frontière sud-ouest de la Russie, d'une part, et surtout, l'Ukraine a des prétentions sur la Crimée, le sud de l'Ukraine a des prétentions sur la Crimée, et la Crimée est le siège de la principale base navale russe. Donc, d'un point de vue de la rationalité d'un État moderne, il est impossible pour la Russie, comme n'importe quel autre État, si demain, par exemple, la Russie devait financer, comme les États-Unis l'ont fait en Ukraine à hauteur de 5 milliards de dollars, la vie politique locale, si la Russie ou la Chine devaient faire exactement la même chose au Mexique, par exemple, en finançant le Chiapas, qui est une partie de la Mexique à la frontière du Guatemala, qui est sécessionniste et qui, pour le coup, est vraiment démocratique, et décide d'investir des fonds là, il est peu probable que le Mexique reste indépendant, même avec un président issu de Coca-Cola. Donc, il faut ici avoir une lecture géopolitique. Il ne faut pas être dans le « je suis pour ou contre Poutine ». Comme on a fait l'erreur avec la Syrie et tant d'autres pays, il faut arrêter de regarder, d'analyser ce genre de tragédie comme on regarde un film. Il ne s'agit pas de dire qui est le bon, qui est le mauvais. Il s'agit de décrypter les stratégies politiques en cours et de voir comment elles peuvent se concilier. Il s'agit ici de rappeler que Poutine a fait la demande de rentrer dans l'OTAN, il a fait une demande d'adhésion, il a été snobé, comme l'Union européenne a par ailleurs snobé les Turcs, et qu'aujourd'hui on se trouve devant une impasse. Je rappelle que la Russie a 10 000 têtes nucléaires, donc aucune guerre de front n'est possible avec la Russie, mais ce qu'à mon avis... Les stratèges américains, états-uniens, essayent de faire, c'est d'avoir une guerre de basse intensité, une sorte de marécage dans lequel s'embourberait la Russie en faisant la guerre à ses frontières. Et je pense que la réponse de Poutine, qui n'est pas le dernier des stratèges, est une guerre éclair. Parce que soit c'est parti pour une décennie de guérilla, ou soit Poutine prend le contrôle très rapidement de l'Ukraine, c'est ce que visiblement il a fait. Je le rappelle, on est dans une situation extrêmement dangereuse du fait... Allô ?
Oh, il y a eu une interférence, allez-y. Okay.
Du fait des forces nucléaires en jeu, donc il est urgent non pas de se proclamer pour ou contre Poutine, mais il est urgent... D'appeler à une conférence internationale où toutes les parties, en ce inclut évidemment la Russie, de mettre les parties autour de la table pour avoir une solution négociée. Et je pense qu'il est évident que l'un des principaux points à l'agenda des Russes est d'avoir une discussion non seulement sur la configuration de l'OTAN, sa composition et son agenda. Il est temps pour que toutes les guerres, sauf quand elles aboutissent à un génocide, toutes les guerres se terminent par une discussion politique. Il est temps que le politique se réinvite à l'avant-plan de l'agenda.
Merci Souhel. Kerwin Maizon.
Je dirais que c'était prévisible ce qui arrive. Les accords de Minsk n'ont pas été respectés. Et les Américains ou les États-Unis ne respectent jamais rien. Parce que dans leur façon de voir le monde, c'est la puissance américaine qui compte. Il faut dominer à tout prix et à n'importe quel prix. Cette domination est à la fois politique, économique, scientifique, militaire et même juridique. Vous allez vous rendre compte qu'ils ont... l'extraterritorialité de certaines lois qui font qu'une décision prise aux États-Unis a des impacts mais très néfastes et négatifs sur les autres pays. Donc c'est cette domination que les Américains veulent préserver à tout prix et à n'importe quel prix. Et toute l'ossature des relations internationales est battue sur cette façon de voir. C'est ainsi que les Américains contrôlent, par exemple, les systèmes financiers mondiaux avec le dollar et les schwitz, par exemple. Donc, toute autre puissance qui viendrait remettre en cause cette toute-puissance américaine sera confrontée par les États-Unis et ses affidés, notamment les pays de l'Europe occidentale. Donc, ils ont d'abord commencé par ne pas respecter les accords de Minsk. en extendant l'OTAN jusqu'aux frontières russes. Mais ils ne se sont pas limités à cela. Ils sont allés jusqu'à instrumentaliser la politique intérieure ukrainienne. Lorsque le président Yanukovych a été chassé du pouvoir et remplacé par des personnes pro-américaines, notamment ceux de la place de Maïdan. On a vu des ministres, des députés et notamment des sénateurs américains distribuer des cookies en pleine manifestation. Je suis en train de voir, par exemple, en France, place de la République, les gilets jaunes manifestés. Et puis, un ministre brésilien ou des députés congolais qui débarqueraient, qui commenceraient à distribuer des sandwichs et à brandir des drapeaux en disant « Bon, la police française est violente, la politique de Macron affame les Français, alors nous sommes venus vous aider. » Ils se sont permis de le faire. Alors, la Russie, dont on dit non moins sans ironie, c'est une façon de l'éduminer. Bon, l'économie de l'URSS, 17 millions de kilomètres carrés, a le même poids que l'économie de l'Espagne ou l'économie de la Corée du Sud. Ok, sur le plan économique, il y a quelques faiblesses qu'il faut relever, mais on oublie qu'on a affaire à la première puissance militaire du monde et on a affaire à un peuple fier. Et ce peuple n'acceptera pas de se faire mener par les bouts du nez ou se faire humilier par les Américains. Donc, ils brandissent ce qu'ils ont de mieux, la puissance militaire, pour amener les Occidentaux à comprendre que l'unipolarité, c'est fini. Nous sommes maintenant dans un monde multipolaire. Et dans ce monde multipolaire, un des pôles de pouvoir, c'est la Russie. On a affaire à un ancien colonel du KGB, donc quelqu'un qui connaît les dossiers. On a affaire à quelqu'un qui a travaillé en Allemagne de l'Ouest, disons en Allemagne déjà, donc quelqu'un qui connaît l'Europe occidentale. On a affaire à quelqu'un qui a fait la guerre en Afghanistan, donc qui connaît la guerre. Et on a affaire à quelqu'un qui est très observateur. Parce que dans son discours, dont on vient de voir l'extrait, il y a eu beaucoup des références au passé de ces pays et aux erreurs du passé, des erreurs que Poutine voudrait corriger. Et on a enfin affaire à quelqu'un qui est peut-être conscient qu'il va jouer un rôle historique dans le monde et il est plus que décidé à ne pas louper les coches, à faire de telle sorte que le peuple russe puisse retrouver sa place d'antan. Ce peuple qui a accompagné l'humanité dans beaucoup de conquêtes, notamment la conquête de l'espace. On n'humilie pas ces peuples de la même manière qu'on humilierait, par exemple, le peuple de la République démocratique du Congo, qui s'est retrouvé soumis.
On va faire le lien tout à l'heure. Merci en tout cas pour ces lectures. Peut-être qu'il faudra une autre rencontre pour parler spécifiquement de cette question, parce qu'il y a tellement de choses que l'on pourrait dire. Passons à présent, si vous le permettez, au thème de notre rencontre de ce soir. Le thème, c'est la démocratie, la crise de la démocratie dans le monde. Alors, je voudrais vous montrer ce livre pour dire que la question, je ne sais pas si voilà, on le voit à l'écran, la question est aujourd'hui d'actualité dans différents cercles de réflexion. Et pour commenter ce livre écrit par deux professeurs, il s'agit de Steven Levitsky et Daniel Ziblatt, le New York Times a écrit à peu près ceci. Levitsky et Ziblatt, je traduis directement, montrent comment les démocraties se sont effondrées partout dans le monde. Et en fait, il y a un problème aujourd'hui avec l'exercice démocratique qui a aussi été mis en avant par l'arrivée au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis, parce que c'était quelqu'un qui n'était pas attendu. Et du coup, on s'est posé la question sur les limites de la démocratie, avec la montée des extrêmes, avec la polarisation de nos sociétés. Ce sont des faits qui ont commencé, dans l'esprit de certains en tout cas, à, a poussé à cette réflexion sur les limites de la démocratie et sur l'avenir même de celle-ci comme forme de gouvernement ou régime idéal ou supposé comme tel dans la gestion des pays. Alors, une des limites ou une des manifestations des limites de la démocratie relève même de sa nature qui finalement finit par la rendre aux yeux de certains qui commencent à la percevoir en fait comme une imposture. Supposé être le pouvoir du peuple par le peuple, on se rend compte, en regardant à peu près partout dans le monde, que l'accès à cette démocratie est aujourd'hui en réalité contrôlé par les pouvoirs de l'argent. La démocratie pleine et vécue est aujourd'hui un peu partout l'affaire des riches, ne fût-ce que si on devrait seulement considérer le coût d'une campagne électorale. Alors, monsieur, vous êtes avec moi ce soir, Souhel Chicha et Kerwin Maïzo. Je vous pose la question, existe-t-il vraiment une démocratie telle qu'elle est vécue ou sommes-nous plutôt en face d'une imposture en prenant déjà la question de l'argent? Une campagne électorale, ça coûte cher. Pour mener une campagne électorale, il faut de l'argent. Et à partir de ce moment-là, peut-on vraiment parler de démocratie lorsque l'élément déterminant ou l'élément limitant pour l'accès à cette démocratie est l'argent? Souhel Chicha.
Merci. Je voudrais commencer par une citation de Nietzsche. Nietzsche dit « L'État est le plus froid des monstres froids. Il ment. Et voici le mensonge qui s'échappe par sa bouche. » L'État, moi, je suis le peuple. Je rappelle cette citation pour amener à réfléchir sur la distinction qu'il y a entre l'État et la démocratie. Vous avez rappelé la définition de la démocratie, c'est-à-dire finalement un gouvernement du peuple par le peuple. Il me semble que la contestation de l'État par le peuple qui, par exemple, s'exprime à propos de la crise de la COVID-19, atteste, au contraire, d'une certaine vigueur de la démocratie. Des mouvements comme les apatistes au Mexique, qui sont sécessionnistes de fait et qui refusent la démocratie représentative pour une démocratie réelle, attestent également d'une telle vigueur. Je dirais que... pour le voir plutôt comme un anthropologue, je pense que ce que nous appelons démocratie dans la théorie moderne de l'État est en réalité un rituel de légitimation du pouvoir. Des Africains l'auraient fait, on se serait moqué d'eux, mais depuis, on va dire, une centaine d'années, des gens, périodiquement, vont mettre un bout de bâton, de papier dans une boîte, et ils s'estiment représentés démocratiquement. Donc je ne dirais pas que c'est une crise de démocratie, c'est une crise de l'État qui porte en elle, au contraire, les germes d'un renouveau de la démocratie. Je pense que c'est particulièrement important pour l'Europe, mais encore plus pour l'Afrique, justement, dont l'État, comme héritage colonial dans son espace, est peut-être aussi un des grands problèmes qui se posent à nous, Africains.
Kerwin Maïzo.
La démocratie, cette façon de gérer le pouvoir qui est devenue une espèce de pis-aller, le monde entier doit être démocrate, est confronté à certaines limites. Et je lis à ce propos un ouvrage assez intéressant que je vous montre. C'est celui-là. La démocratie, histoire, théorie, pratique, la démocratie dans l'histoire, les défis actuels de la démocratie, diversité des expériences dans le monde. C'est un ouvrage édition Sciences Humaines et de deux auteurs, Jean-Vincent Olindre et Benoît Richard. C'est-à-dire que... la démocratie évolue dans un environnement. Et cet environnement, c'est un environnement géopolitique et c'est un environnement économique. Et cet environnement a de l'influence sur la qualité de la démocratie qu'on a dans chaque pays. Mais il n'y a pas que cela. la place de chaque État dans le Conseil des Nations ou le système économique. Il faut aller même au-delà. Moi, je dirais, il y a la culture qui influe sur la démocratie. La démocratie grecque, donc d'antan, n'est pas la démocratie exactement, mais en tout cas avec les évolutions, n'est pas exactement la démocratie occidentale d'aujourd'hui. Tandis que lorsqu'on parle de démocratie en Occident, ce n'est pas la démocratie comme on les conçoit en Afrique. Parce que dans des sociétés socio-traditionnelles africaines, il y avait une espèce de démocratie qui se faisait, et cette démocratie est entrée en conflit avec ce que les Occidentaux ont ramené et ce qu'ils ont présenté. Donc du coup, on se retrouve, disons, certains intellectuels africains, notamment en Afrique centrale, se retrouvent dans une espèce de schizophrénie où ils ont l'éthos ancestral qui les attire et de l'autre côté, la démocratie occidentale telle qu'on leur a proposée à l'université et par ceux qui les soutiennent. Donc du coup, nous avons des personnes qui pensent que le chef est sacré. Et comme le chef est sacré, lorsqu'il décide, tout le monde obéit parce que le chef qui est sacré ne peut pas prendre de mauvaises décisions pour sa population. Mais de l'autre côté, on lui a fait comprendre que c'est le peuple qui doit être au-dessus du chef. Le chef n'est que le représentant du peuple et celui-là n'exerce son pouvoir que par la volonté du peuple. Or, de l'autre côté, il y a le chef qui tire son essence ou son pouvoir de Dieu et il l'exerce pour le bien de toute la population, il est sacré. Comment concilier tous ces deux? Donc, la démocratie sur le plan historique a évolué, mais est confrontée à beaucoup de défis. Ce sont ces défis-là qui nous montrent la voie si la démocratie telle que nous la connaissons a échoué ou bien si la démocratie s'adapte bien à l'évolution de la société.
L'ambition attendue d'un régime démocratique, c'est de faire en sorte que face à l'État, face au pouvoir, que la situation de chaque citoyen soit exactement la même. Et donc, tous les citoyens devraient théoriquement avoir le même rapport par rapport à la démocratie. Je reviens à cette question de l'argent. Lorsque vous avez une campagne électorale, que ce soit en France, aux États-Unis ou en Belgique, des pays que Souel connaît très bien, ou on peut prendre l'exemple du Congo, par exemple, aujourd'hui, pour être candidat aux élections présidentielles au Congo, je dis ça de mémoire, Kerwin, corrige-moi si je me trompe, il faut déposer une caution de 100 000 dollars. 100 000 dollars pour pouvoir être candidat. Nous sommes dans un pays où la grande majorité vit en dessous d'un dollar. Donc, il faut que quelqu'un puisse déposer 100 000 dollars pour espérer poser sa candidature aux élections. Et donc, la première question qu'on doit se poser et que tout le monde devrait se poser, c'est d'où viennent ces 100 000 dollars que tel ou tel a déposé. Et à partir de ce moment-là, on pourrait se demander, est-ce que si ces 100 000 dollars lui ont été donnés par X, Y ou Z, est-ce que monsieur, une fois au pouvoir, n'aura-t-il pas plus de comptes à rendre à ces personnes qui lui ont donné cet argent plutôt qu'à ce peuple pour lequel il est supposé plaider? Et le phénomène, on le retrouve aussi dans une certaine mesure dans les pays occidentaux. Mener une campagne coûte cher, il y a des gens qui vont mettre de l'argent. Quand vous avez, on va prendre l'exemple de la France, ça peut même être un peu caricatural, quand vous avez un Zemmour qui est candidat au présidentiel et qui est soutenu, c'est de notoriété publique, par un industriel, monsieur Bolloré, il y a un malaise qui tombe sous le sens que si monsieur est président, il aura plus de comptes à rendre à monsieur Bolloré qu'à ce peuple-là. Est-ce que ça, comme facteur objectif dans l'organisation de ce rituel de passage démocratique ou de ce rituel de renouvellement du pouvoir, de légitimation, est-ce que en soi, ce n'est pas un gros problème qui empêche même de croire en cette démocratie actuellement?
Oui, c'est un des problèmes. Chomsky disait, en comparant les États-Unis avec l'Iran, en disant qu'en Iran, c'était les mollahs qui choisissaient qui pouvait se présenter aux élections. Et il faisait un bon parallèle en disant qu'aux États-Unis, c'est le capital parce qu'il faut des moyens énormes pour se présenter aux élections. Donc il y a toute une série, évidemment, de filtres qui font que le pouvoir se reproduit. L'argent, mais également l'appartenance à la particratie. Dans un pays comme la Belgique, par exemple, pour se présenter sur une liste électorale, c'est le parti d'abord qui présélectionne les candidats, et ensuite, vous êtes soumis au vote électoral. Donc, si vous voulez, le candidat n'arrive pas directement en face de la sanction électorale. C'est également les médias. Il y a de très, très bons... je pourrais faire un parallèle avec ce que Kevin a fait avec, que je trouve très bon, le parallélisme et le sorte de schizophrénie entre la modernité et l'éthos traditionnel. C'est que en Occident, dans l'État moderne, le chef est également sacré, il est sanctifié par l'illusion de la sanction du peuple, alors qu'il ne l'a pas, et vous venez de rappeler un des biais qui fait qu'il ne l'a pas en définitive. Ils sont nombreux à avoir été élus par l'appui de la télévision. On peut citer Reagan, Berlusconi, Trump, peut-être Zemmour, on ne sait pas, mais en tout cas, du jour au lendemain, il apparaît comme un acteur politique majeur de la scène française. Donc il y a toute une série de mécanismes qui font que la démocratie est un vrai rituel. Alors qu'est-ce que c'est un vrai rituel ? Un vrai rituel, c'est quand on ne se rend pas compte que c'est un rituel. C'est-à-dire qu'on est tellement pris dans le jeu religieux que l'on pense que c'est la réalité. Donc c'est pour ça que j'insiste pour avoir une discussion de qu'est-ce que la démocratie ? Kevin a rappelé son origine grecque, mais à l'époque des Grecs, les femmes étaient exclues. Dans nos pays occidentaux, une partie de la population est exclue. Les gens dits étrangers, qui peuvent rester 10 ans, 20 ans sur le territoire et qui n'ont pas de droit de vote. Et c'est une structuration raciste. Hein. Je rappelle que c'est... suite à la construction de la Commission européenne, que les 10 étrangers ont obtenu le droit de vote au communal, pas avant. Dans un pays comme la France, à peu près la moitié de la population ne va pas voter, parce qu'à juste titre, elle ne voit pas un enjeu pratique. Donc je dirais que la démocratie actuelle est un rituel religieux auquel les gens ne croient plus, en ce qui concerne l'Europe, par exemple. Je ne m'avancerai pas sur ce terrain sur l'Afrique, parce que l'Afrique a ceci de particulier que Kevin l'a bien rappelé. On ne peut pas considérer... on ne peut pas faire l'erreur d'avoir une analyse qui n'est que locale. On ne peut pas ignorer la géopolitique et en même temps, on ne peut pas avoir une vision qui est que globale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ignorer le local. Donc, tout ça s'articule. Il est clair que l'un des premiers freins à l'accès, je pense que le premier homme politique africain qui, et ça s'est vu dans le passé, ils sont nombreux à avoir eu une prétention démocratique pour leur pays, ils ne tiennent pas 3 mois. Je veux dire, je ne pense pas que les Occidentaux sont prêts à accepter un pays démocratique en Afrique. Ça remettrait beaucoup trop en cause leurs intérêts géostratégiques et économiques. Parlons de l'Afrique de la France pour la Centrafrique, par exemple. Rappelons que pour l'Afrique du Nord, en 1992, l'Algérie, le processus électoral a été interrompu par un coup d'État militaire. On sait aujourd'hui, suite au déclassement d'archives officielles, que ce coup d'État militaire a été soutenu par la France, qui n'en est pas à son premier coup. Donc, il y a la question géopolitique de l'accès à la démocratie. Il y a l'accès culturel et décolonial. C'est-à-dire que tant que les non-blancs réfléchiront avec une tête de blanc, ils n'auront jamais une démocratie qui est à leur service, précisément parce qu'ils pensent avec une tête de blanc. Et il y a aussi la responsabilité des Africains. Quand je dis les Africains, c'est toute l'Afrique du Nord au Sud, à aussi avoir une réflexion sur la démocratie, sur la question du genre, sur la question de la construction d'un espace commun. Dans beaucoup de pays africains, prenons encore une fois l'Afrique du Nord, il est plus facile et plus rapide d'aller d'Alger à Paris ou de Rabat à Paris que d'aller d'Alger à Rabat. Donc toutes ces questions-là, et géopolitiques, et culturelles, et économiques, mais également militaires, ainsi qu'une véritable démocratisation de la culture, et pas d'une éducation à la démocratie. Les sociétés traditionnelles sont porteuses. La palabre du village est un exercice démocratique. Très démocratique même. Beaucoup plus démocratique que le fait régulièrement d'avoir le rituel d'aller poser un bout de papier dans une boîte. Là, je m'arrête là pour l'instant.
Souhel le rappelle, on peut lire la démocratie, notamment au moment des élections, comme un rituel de légitimation du pouvoir. Il se fait, Kerwin, qu'en Afrique, c'est plutôt un moment qui, paradoxalement, année après année, confirme dans une certaine mesure l'illégitimité du pouvoir, parce que les résultats sont contestés. Souvent, celui qui est élu n'est pas celui qui aurait dû être élu, ou en tout cas, son pouvoir n'est pas accepté. Finalement, année après année, ça devient un exercice qui se solde souvent par des troubles au niveau du pays, et c'est peut-être là le danger aussi, finit par dégoûter les gens d'aller faire cet exercice, parce que finalement, c'est un exercice qui, au lieu de confirmer la présence d'un exercice démocratique dans le pays, confirme plutôt que le pays est vraiment sous le contrôle de différentes forces. Et comme ce qu'on n'observerait pas en Occident, où on a tendance à croire que finalement ce sont nos résultats, même s'il y a de la manipulation en amont ou pas. Mais en tout cas, en Afrique, c'est au moment des élections qu'on confirme que le pays n'est pas démocratique et la démocratie ne fonctionne pas.
Oui, effectivement. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que dans le vocabulaire en Afrique, il faut dissocier élection et vote. Élection comme processus de choix des dirigeants est décidé ailleurs, par des forces, je dirais, occultes. Tandis que le vote est effectué par la population. Et pour la population, c'est juste un grand barnaon où on voit des gens en pagne qui distribuent des bouteilles de bière par-ci, des t-shirts par-là, qui ramènent une sono, des orchestres qui vont jouer gratuitement à gauche et à droite, et qui invitent la population à poser un acte, celui de déposer un morceau de papier dans une urne. Tandis que les candidats dont le nom sortira de l'urne, c'est une personne qui a été pré-choisie ailleurs. Et d'où cette contestation presque automatique des élections en Afrique. Pourquoi en est-il ainsi? Mais c'est parce que sur le plan économique, nous vivons les conséquences de cette théorie du centre et de la périphérie. C'est-à-dire que l'Occident, c'est le centre, et tous les autres peuples à côté, c'est la périphérie. Tout doit concourir au bonheur et à la promotion et au succès économique du centre. Donc du coup, les centres veillent à ce qu'au niveau de la périphérie, les pays de la périphérie soient dirigés par des personnes qui n'auront pas de comptes à rendre à leur peuple, mais qui n'auront de comptes à rendre qu'à ceux qui les ont choisis. C'est ainsi que, par exemple, dans la plupart des pays francophones, vous avez beau avoir des tranches de campagne électorale à la radio, à la télévision, d'accord, ça peut compter ou pas, mais ce qui compte, c'est passer sur Radio France Internationale. Parce que la décision vient de là. Et dans les discours d'un candidat, on entend toujours un petit vocabulaire du genre les décideurs, pour parler des Occidentaux, la communauté internationale, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que tant qu'il n'y a pas communauté d'intérêt, on ne peut pas parler de communauté internationale. Je préfère même que l'on dise club occidental. à nos amis de l'autre côté, c'est-à-dire les Occidentaux. Et lorsqu'il a le pouvoir, la première chose à faire, ce n'est pas une tournée de remerciements à travers les pays. C'est dès le lendemain, premier voyage, ça sera Paris, Londres, Washington. Et après les élections, la première personne à commenter les élections, et on a comme l'impression que ces commentaires sont tellement attendus, c'est les commentaires de l'ambassadeur de France, de la Belgique, des États-Unis. Et dans un pays, par exemple, comme la République démocratique du Congo, la MONUSCO, c'est-à-dire l'ONU, ou tous les systèmes des Nations Unies à Kinshasa, ou ce qu'on appelle pompeusement la communauté internationale, a beaucoup plus à dire que la population congolaise. Donc, ce système de centre-périphérie fait que l'élite du centre prend des décisions à l'encontre de la volonté des populations de la périphérie. Ce qui fait que, bon, ce que nous remarquons, ce n'est pas une contestation locale, mais c'est plutôt les rapports déséquilibrés entre les anciens pays colonisateurs et les anciens pays colonisés qui provoquent qu'on puisse avoir une qualité de démocratie tellement médiocre. Mais comment voulez-vous qu'on ait la démocratie sur le plan société internationale? Il n'y a déjà pas de démocratie. Regardez comment fonctionne l'ONU. Hein? Il y a quelques pays qui ont les droits de veto, les autres viennent faire de la figuration, et puis il y a un pays qui peut imposer un embargo de 60 ans à un autre pays, ben personne ne lève le petit doigt. Donc, si déjà sur le plan société internationale, il n'y a pas de démocratie, je me demande comment, sur le plan interne spécifique, chez certains pays africains, par exemple, on aura une véritable démocratie, d'autant plus que qui veut instaurer la démocratie, qui veut instaurer un véritable progrès économique, s'expose à se retrouver victime d'un coup d'État et mourir comme Thomas Sankara.
Un autre aspect de cette difficulté à accéder à la démocratie, c'est que dans toutes ces sociétés dites démocratiques avancées, ou même en Afrique, il s'est mis en place au fil des années un système de reproduction des élites. Alors, en Occident, ça va se faire par le label des grandes écoles, par exemple, pour exercer la plupart des politiciens en France, en tout cas, vont sortir de même moule. Ça va être Sciences Po, et École nationale d'administration ou École polytechnique. Si on va aux États-Unis, ça va se passer via aussi les grandes universités, les fraternités qui vont avoir une certaine influence et qui vont constituer une communauté très active depuis l'université jusqu'à l'exercice du pouvoir. On a également mutatis mutandis, le même phénomène en Afrique. Quand je prends par exemple le cas de la République démocratique du Congo, où on va observer, mais c'est vrai aussi dans d'autres pays africains, où on va observer que ce sont à peu près les mêmes familles, ce sont à peu près les mêmes enfants, des mêmes politiciens qui sont là depuis les années 60, qui continuent à s'accaparer ce pouvoir-là. L'actuel président de la République démocratique du Congo, c'est le fils d'Étienne Tshisekedi, qui était déjà dans les mains du pouvoir depuis les années 60. L'actuel président du Togo, c'est le fils de Etienne Adema, qui était lui-même président. Et on peut faire cet exercice-là, on va retrouver à peu près les mêmes. On en vient même à se demander, par exemple, pour le cas de la République démocratique du Congo, est-ce que par hasard ce ne serait pas cette non-appartenance à ce type de famille-là qui aurait été un gros frein pour le candidat malheureux qui se considère comme avoir remporté les élections? Je cite Martin Fayulu. Comment est-ce que vous réagissez à ce phénomène de reproduction des élites, Kerwin Maïso?
Moi, je pense que la politique est devenue une affaire de caste. Nous vivons une espèce d'oligarchie qui ne dit pas son nom. En France, comme vous l'avez dit, il faut sortir de l'ENA et des Sciences Po. Et chaque fois que quelqu'un qui n'est pas sorti de ses moules arrive au pouvoir, on lui tombe dessus à bras raccourcis. Le cas de Bernard Tapie est assez éloquent pour nous rappeler ce qu'il a vécu.
Je te coupe une seconde pour rappeler que le parti de Jean-Luc Mélenchon a, parmi ses candidats à la députation, avait une aide-soignante et on s'est littéralement moqué de cette dame parce qu'elle était candidate à la députation quand elle est arrivée au Parlement. Donc le phénomène, c'est pas une vue d'esprit, quoi.
Ah oui, c'est pas une vue d'esprit. C'est des gens qui se connaissent depuis l'école. Ils ont d'abord des noms de famille. Ils se connaissent depuis l'école et ils ont une espèce de réflexe de classe, quel que soit le bord politique où ils se trouvent, droite, gauche, centre droit, centre gauche, extrême droite, extrême gauche. Généralement, c'est des gens qui se connaissent, qui ont fréquenté les mêmes universités, qui ont vécu dans les mêmes milieux. Ils ont fait le même programme et ils empêchent d'autres personnes de rentrer dans les cercles. Et ils prennent des lois qui verrouillent encore un peu beaucoup plus le système. Déjà, par exemple, au Congo, au lieu d'imposer comme condition niveau d'études, bonne moralité, au Congo, on a imposé comme condition ticket d'entrée 100 000 $. On sait que le niveau de vie est tellement bas que 100 000 $, c'est exorbitant. C'est comme si on demandait 1 000 000 $ à quelqu'un qui veut devenir candidat aux États-Unis. Et ça, ce n'est même pas pour la campagne électorale. Hein. C'est juste une somme qu'on paye à l'organisme qui s'occupe des élections. Dans certains pays, c'est le ministère de l'Intérieur. Maintenant, en Afrique, on crée des centrales électorales. On crée des centrales électorales pour s'occuper spécifiquement de l'organisation des élections. 100 000 $ non remboursables. C'est comme demander à quelqu'un en Belgique donner 1 000 000 €, non remboursable, pour être candidat aux élections. Déjà, les tickets d'entrée est excessivement cher. Et ensuite, lorsqu'on regarde le système, à une époque, Jeune Afrique a sorti des cartes comme ça pour certains pays africains, la République démocratique du Congo, les Gabons et je ne sais plus quel pays. Vous regardez les parlements, c'est vraiment une famille. Hein. C'est juste X et le mari de Y, dont le fils. Donc ils sont là, mari, beau-frère, ils se connaissent tous. Toutes les familles ont des connexions, des consanguinités, des connexions, mais très compliquées. C'est tout le parlement, lorsqu'il y a un deuil qui frappe, hein, vous allez vous rendre compte qu'il y a 15 personnes qui sont impactées. Pourquoi ? Parce que son fils a épousé mon fils, et que ma femme, c'était l'ex de l'autre, et l'ex de l'autre, c'est le neveu de X. Jeune Afrique a fait une carte pour les lire. Il faut vraiment être mathématicien pour comprendre comment le parlement d'un pays peut être comme ça. Donc ça, c'est des gens qui se sont accaparés du pouvoir, parce que pour eux, le pouvoir, c'est un chenal social, c'est un chenal de promotion sociale. Ils se sont accaparés le pouvoir parce qu'à travers le pouvoir, ils s'accaparent les moyens de l'État. Ils acquièrent un certain prestige et certaines facilités que tout le monde ne peut pas avoir. Et ils vivent, mais surtout en Afrique, hein, par une espèce de, je dirais, aspérité, c'est-à-dire que ma richesse est visible parce que les autres sont trop pauvres. Voilà. Donc, ce sont ces gens qui accèdent au pouvoir pour vivre avec une opulence tellement ostentatoire que ça déteint de façon choquante et scandaleuse avec la pauvreté tout autour. Quelqu'un préfère acheter un 4x4 qui coûte extrêmement cher au lieu de réfectionner la route, par exemple, parce qu'il préfère plutôt son prestige personnel, ses intérêts personnels, que globalement les intérêts de tous. Alors, ce genre de personnes mettent tout en œuvre pour empêcher les autres d'accéder au pouvoir, parce que c'est le moyen le plus sûr d'avoir une certaine promotion sociale, une promotion économique et un pouvoir qui permet d'écraser les autres. Donc ce n'est pas une vue de l'esprit, ça se passe en Occident et ça se déroule en Afrique un peu autrement, mais c'est comparable, c'est similaire, mutatis mutandis.
Souhel Chicha.
Alors, bon, je suis désolé de ne pas pouvoir, je voudrais avoir un rôle aussi où je contredis de temps en temps Kervin, mais forcément, je suis obligé d'aller dans le même sens que lui. Mais je vais parler pour dire exactement la même chose que, de, que ce que vient de dire Kervin, mais du point de vue du sociologue. Oui. Pour un sociologue comme Bourdieu, l'État, c'est une entité théologique. C'est-à-dire que l'État existe parce qu'on y croit. On ne peut pas toucher l'État. Qui est l'État ? Personne n'est l'État en soi, c'est une croyance. Et comme du temps de la grandeur de l'Église catholique, eh bien, les papes et les clergés vivaient dans le faste. Et donc, le contrôle de l'État est bien sûr un enjeu premier au terme d'une société. Et pour revenir à la question première que tu posais, Mawadi, Bourdieu, donc, qui a très bien théorisé pour la société blanche cette question de la reproduction, disait que l'enseignement transforme ceux qui héritent en ceux qui méritent. C'est-à-dire qu'on fait les plus grandes universités en réalité parce qu'on a les moyens sociaux et culturels d'y accéder, et on en ressort auréolé d'un mérite scientifique qu'effectivement on n'a pas. Je rappelle que Bush a fait Harvard. Il suffit de l'écouter pour se rendre compte que Harvard n'est pas un gage d'intellectualité. Alors effectivement, si on dit d'un village africain tel est le chef du village parce que son père était fils du village, eh bien, dans la société moderne, on hausserait les épaules, on se dirait, ma foi, ces gens ne sont pas très évolués. Je rappelle que Bush a été président et que son fils a été président et que l'on parle ici d'une des premières puissances de la planète, militaire et idéologique. En Belgique, puisque nous connaissons tous les trois la Belgique, à nous trois, je suis certain qu'on pourrait citer une vingtaine de fils d'eux ou de filles d'eux.
Louis Michel, Charles Michel, Alexandre Duclos, oui. Herman.
Et on pourrait. Et... Donc, c'est un système qui se reproduit, mais qui est en crise. Prenons le cas de trois pays, la France, l'Italie et les USA. Nous avons toujours des pays, ce sont trois pays où celui qui arrive au pouvoir est toujours doté des mêmes attributs, il est riche ou il a fait des études, mais il n'appartient pas à la caste traditionnelle. Trump, il est porté dans un premier temps du bout des doigts par les républicains, c'est pas un homme d'appareil. Macron, qui débarque de nulle part, qui débarque d'une grande banque, un grand prêtre d'une grande banque qui arrive président de la République, et l'Italie avec Berlusconi. Donc effectivement, on a un système qui se reproduit, mais qui traverse une crise de sa reproduction, et je pense que c'est là que se situe la démocratie. La démocratie, elle se situe justement dans ce qui fait que les gens n'y croient plus et n'y jouent plus, n'ont plus envie de participer du rituel. Et ça, c'est porteur d'espérance.
Ah ben pour moi, je vois plutôt une brèche. Quand Souel dit que porteur d'espérance, je vois plutôt une brèche où la véritable volonté populaire peut s'engouffrer et oui, une fois engouffrée, peut faire bouger les choses, faire évoluer les choses, faire changer les choses, parce que de temps en temps, on voit comment ils sont déstabilisés lorsque quelqu'un qui n'est pas du sérail arrive au pouvoir. On l'a par exemple vécu avec Trump. Pourquoi Trump est arrivé au pouvoir ? C'est entre autres parce qu'il avait déjà de l'argent. Et il s'est affranchi des forces de l'argent qui voulait lui donner l'argent et lui imposer une ligne de conduite et sa volonté. Lui, il avait son avion, il s'est débrouillé seul. C'était une espèce de self-made man politique. Bon, au début, il y a le Parti républicain qui l'a porté. Mais en réalité, c'était une espèce d'électron libre parce qu'il avait déjà les moyens financiers de s'imposer dans ces milieux. Et c'est presque la même chose avec Berlusconi, qui était un homme d'affaires et qui est arrivé au pouvoir, affranchi de... Genre, l'argent lui a donné la liberté de ne pas être à la botte, je vais dire à 100%, de toutes ces puissances d'argent. Après, je crois qu'il y en a beaucoup qui ont compris. Hein. George Weah en Afrique, je sais qu'il y a une volonté peut-être française derrière, mais le monsieur s'est fait un nom en mouillant son maillot dans les terrains de foot. Et avec cette notoriété, ben, on arrive un peu facilement au pouvoir. Je pense que la brèche que Souel vient d'ouvrir, c'est une brèche très intéressante et il y a beaucoup de choses à développer là-dedans.
Oui, Souel.
Oui, dire peut-être pourquoi c'est un facteur d'optimisme, comme Kerwin a très bien développé. C'est une brèche dans laquelle les forces démocratiques peuvent s'engouffrer, mais également les forces des ténèbres. On associe par exemple Hitler comme la négation de la démocratie, mais Hitler est un fils de démocrate. Hitler est arrivé au pouvoir de manière démocratique, non pas parce que les gens étaient antisémites, toute l'Europe était antisémite. Le racisme fait partie de la modernité. La modernité est construite sur le racisme, avec c'est-à-dire une échelle où le blanc est au premier rang et où le noir est au dernier rang. Depuis 500 ans, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il ne faut plus penser avec une tête de blanc. Donc, espérons que ce soit l'occasion d'une brèche et que ce soit des gens comme Kerwin qui s'y engouffrent. Je serai avec lui. Mais malheureusement, ça peut être aussi des gens beaucoup moins bien intentionnés. L'avenir le dira, les jeux sont ouverts.
Je vais avant de prendre le troisième thème là, l'avant-dernier thème, vous lire juste une petite phrase de ce livre, peut-être que vous avez déjà vu. Donc c'est « Le feu et la fureur, Trump à la Maison Blanche » de Michael Wolff, qui est paru il y a 2-3 ans, je pense. Et donc dans le prologue, et c'est quand même assez effrayant de lire ça, et ça cristallise un peu cette réflexion sur les limites de la démocratie. On peut lire page 11, je cite, « Les politiciens sont les hommes de paille d'une organisation complexe. Les opérationnels connaissent les règles du jeu, les candidats et les élus aussi, mais pas Trump. » C'est pour renchérir sur ce que Kerwin disait tout à l'heure, avec un Trump qui était un OPNI, si vous permettez, un objet politique non identifié qui s'est engouffré dans cette brèche-là. Et au début de cette émission, je citais ce livre « How Democracies Die ». Je vais en citer un autre et ça va nous servir de, ça va nous permettre de parler de la troisième limite. On ne va pas tout explorer en tout cas ce soir, mais il y a quelques-unes, quelques faits qui poussent à réfléchir sur les limites de la démocratie. C'est un livre écrit par Thomas Carothers et Andrew O'Donoghue. Et le livre est intitulé « Democracies Divided, the Global Challenge of Political Polarization ». Alors, dans ce livre, l'objet, c'est d'aller voir partout dans le monde à quel point, depuis quelques années, l'exercice démocratique est devenu difficile par une polarisation importante de la société et à quel point ceux qui arrivent au pouvoir utilise cette polarisation et n'ont même plus froid aux yeux, dans le sens où ils décident de gouverner par le clivage. On l'a vu avec Donald Trump, on le voit aussi avec l'actuel président du Brésil ou ceux qui sont au pouvoir en Italie. Et en fait, c'est ce clivage-là, cette polarisation excessive de la société qui fait le lit de la montée des personnes comme Éric Zemmour, si on peut prendre son cas, en France. Et donc, pendant longtemps, ceux qui arrivaient au pouvoir arrivaient avec l'intention de rassembler. Aujourd'hui, il y en a qui assument le fait de gouverner par le clivage. Le clivage serait donc devenu une nouvelle doctrine de gouvernement, de gouvernance qui est totalement assumé plus ou moins par ceux qui sont aux manettes. Alors le phénomène, il n'est pas seulement européen. Je pense qu'en Afrique, en tout cas de mon point de vue, on a des similitudes. Et là, je demanderai à Kerwin Maïzo de réagir là-dessus. Dans le livre dont je parlais, les auteurs disent que la polarisation de la politique va s'appuyer sur une polarisation déjà de la société, et les facteurs les plus importants pour eux sont la religion et les ethnies, pour ce qui concerne l'Afrique en tout cas, ou alors c'est une polarisation idéologique qui serait déjà présente au sein de la société. Au Congo-Kinshasa, moi j'ai le sentiment d'observer cette façon d'aborder la politique avec l'actuel pouvoir. Peut-être que je me trompe, ce pouvoir s'appuie sur un réseau religieux, premier élément de polarisation, et quelque part sur un réseau ethnique, ce qui fait que le président peut traiter une partie de la population avec des termes méprisants comme Kombantaba. Kombantaba, ça veut dire combattant chèvre, je traduis littéralement, ou alors sorcier, ou je ne sais pas, en tout cas avec beaucoup de joyeuseté. Est-ce que, pour vous, monsieur, le fait que des politiques assument de s'appuyer sur la polarisation et les clivages n'est pas en soi un risque pour, à terme, pour certains en tout cas, se demander s'il est nécessaire ou s'il serait utile de continuer dans cette voie démocratique?
Moi, je pense que c'est une vieille recette du diviser pour mieux régner. On se dit qu'on ne peut pas mettre tout le monde d'accord, on choisit son camp, on divise et on développe la peur de l'autre camp pour espérer que son propre camp puisse avoir une espèce de réflexe d'autoprotection pour se réunir, se grouper, se solidariser autour de celui qui est au pouvoir et y demeurer, pourquoi pas y rester. C'est ainsi que on va remarquer, par exemple, dans la société congolaise, tout c'est la guerre des oppositions. Il y a deux grands clubs de football à Kinshasa, Daring Club Motema Pembe, Vita Club. Lorsqu'on était enfant, chez les chrétiens, il y avait deux grandes familles, les catholiques et les protestants, les Bana Missioni, donc les enfants des missionnaires, et les catholiques. Bon, après, à une époque, nous nous sommes retrouvés avec le groupe de musique le plus populaire du Congo, Wenge Musica, qui s'est subdivisé en deux. Et on est soit BCBiste, avec Jubin Piana, ou maison maternelle, si vous voulez, maison mère, donc chez Werason. Ça fonctionne comme ça, parce que en Europe, là où il y a de vieilles démocraties, on sait, sur le plan idéologique, qui est qui. On sait que les catholiques votent généralement un peu à droite. Bon, on sait que c'est du monde culturel et tout ça, ils sont généralement un peu à gauche. Les paysans sont dans tel coin. Ceux qui sont dans le monde ouvrier sont idéologiquement à gauche. Ceux qui sont dans les puissances de l'argent sont généralement à droite. On peut catégoriser les gens dans une société, je vais dire structurée, savoir qui est où idéologiquement. Tandis qu'en Afrique, comme c'est difficile de savoir idéologiquement qui est où et qui aspire à quoi, et on se sert juste de petites choses comme ça de la vie de tous les jours. Il y a des gens qui ont voté des députés parce que ces députés sont chantés par Werason, par exemple. Et il y a des gens qui vont voter tel monsieur président de la République parce qu'il est de sa province ou de sa tribu. Et cette personne qui, sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique, n'a rien de spécial à proposer parce qu'il est pris entre le marteau et l'enclume. Le marteau, ce sont les promesses électorales qu'elle a faites, et l'enclume, c'est les puissances occidentales qui l'ont soutenue. Donc, ne pouvant rien proposer au peuple, qu'est-ce qu'il fait? Il va jouer sur les clivages. Je ne travaille pas bien parce que telle tribu sabote mon travail. Je ne travaille pas bien parce que tel groupe social ne veut pas de moi. C'est juste cette vieille technique de diviser pour mieux régner, mais on ne se limite pas qu'à diviser pour mieux régner, on va jusqu'à diviser pour espérer consolider son camp autour de soi, mais on le fait aussi pour justifier certains échecs. Voilà.
Allez-y, Souel.
Oui, alors, bon, Affinons un peu, ou essayons d'affiner un peu conceptuellement, il est clair que la compétition fait partie du jeu politique. Chez les humains, mais également chez les singes et un certain nombre d'animaux, la compétition fait partie du jeu social, donc elle fait partie du jeu politique, la droite, la gauche, les pauvres contre les riches, et ainsi de suite. Mais l'exclusion, voire la volonté d'extermination, elle, peut exprimer une crise de la politique. Et donc ici, il convient de ne pas confondre cause et effet. Prenons par exemple, on a parlé tout à l'heure de Trump. Trump, est-ce qu'il crée un clivage, par exemple, en disant à propos d'Haïti, c'est le trou du cul du monde, c'est un trou du cul du monde, et en appelant les Haïtiens des animaux, et donc ce sont des citations officielles ici, il a dit, « They are animals, Haiti is a shithole. » So, donc je cite ici un président des États-Unis, où au contraire, il exprime des causes qui s'enracinent d'abord dans une crise géopolitique, une crise du capitalisme d'abord, au niveau global, donc au niveau mondial, au niveau de la modernité, on va prendre modernité l'ensemble géopolitique qui existe à peu près depuis 5 siècles, une crise écologique également, la maladie du Covid ne tombe pas du ciel, on peut la relier à l'écologie, on peut la relier au capitalisme, c'est une zoonose, tu es médecin donc tu sais très certainement ce que c'est. Et ici, d'un point de vue historique, et là je reviens au livre que tu as cité, dès le début, c'est-à-dire avec les monarchies espagnoles dans la péninsule ibérique, l'idée de race est une idée moderne. Ça n'existe pas, le mot noir, blanc, etc. Ce sont des concepts modernes. Si par un coup de magie, Platon ou Socrate devait venir entre nous et qu'on parlait de blanc et de noir, ils ne comprendraient pas. Au XVe siècle, quand Shakespeare écrit Le Marchand de Venise, le personnage est un Maure, et à l'époque, on mettait les Noirs et les Arabes, ce qu'on appelle aujourd'hui les Noirs et les Arabes, dans une même catégorie. Il faut attendre la systématisation de la déportation et de la mise en esclavage des Africains pour qu'apparaisse le concept de Noir comme race. Bon. Et dès le départ, la crise de l'État s'exprime par une montée, une explosion du racisme. Il y a 5 siècles, comme dans les années 30 aux États-Unis, en Allemagne nazie, et comme c'est le cas aujourd'hui en France ou aux États-Unis. Et on retrouve cette articulation entre l'État qui a été encore plus mal bâti. L'Afrique est sans doute un des continents où le concept d'État est le plus fragile parce qu'il a été bâti non pas à partir de l'histoire africaine, mais de rapports de forces coloniaux. On voit quand on regarde la carte de l'Afrique, c'est avec une latte qu'on a dessinée. On compare un pays d'Afrique et on compare à l'Europe. Alors l'Europe, c'est un truc avec des frontières qui zigzaguent partout. Quand le type qui a dessiné la carte de l'Afrique, il a pris juste une latte et il a fait des lignes droites. Alors qu'on a coupé des familles, on a coupé des ethnies, on a coupé des ensembles culturels. Or, dans l'État moderne, la première chose que l'État fait, c'est couper les langues, ce que la France a fait avec les Bretons, c'est d'uniformiser les populations. L'État se construit d'abord dans le sang. Il n'y a aucun État qui existe de manière naturelle. Les Africains avaient des nations. Je rappelle que, par exemple, le Mali, au XIIIe siècle, était un des centres financiers les plus importants de la planète, avait des nations, mais n'avait pas d'État. Aujourd'hui, les Africains sont face à leur avenir politique, et je pense qu'avant de sauter trop vite dans le récit tel que le blanc l'a écrit, il devrait se poser la question de savoir si est-ce que l'État correspond à l'histoire, aux civilisations africaines. Dans un moment où l'État est de plus en plus remis en question dans le blanc triarcat même, je veux dire aujourd'hui, la géopolitique, ce n'est plus des questions d'État, mais de regroupement d'États. Les États-Unis, c'est un ensemble d'États. L'Union européenne, c'est un ensemble d'États. Donc, on a des groupements d'États dans lesquels ou parmi lesquels l'Afrique doit essayer de trouver une place alors qu'elle bute même sur le concept et la création d'un État, alors on ne va même pas parler de la coalition d'États. Je veux dire, l'Afrique est encore bien souvent dans une ère que moi je qualifierais de coloniale, quand on voit des pays voisins belliqueux entre eux. Je veux dire, la France et l'Allemagne ont compris que malgré les millions de morts, je veux dire, les millions de morts des deux camps, ils ont vite compris que c'était dans leur intérêt d'oublier ça très vite. Et donc, je pense ici que, malheureusement, l'Afrique ne peut pas attendre, parce que, je rappelle ce que, un point important développé par Mrewin en début d'entretien, on ne peut pas parler, je parle d'État, vous remarquerez que je parle d'État et jamais de démocratie, parce que pour moi, la chute de l'État ou la crise de l'État est une brèche, pour citer Mrewin, est une brèche possible de la démocratie, mais je pense que l'Afrique ne peut pas attendre du blanc que le blanc émancipe l'Afrique. Les Africains doivent s'émanciper, et pour s'émanciper, ils doivent penser à partir de leur référentiel et justement inventer ou décider de ce que le mot démocratie veut dire pour eux. Pas faire juste un copier-coller, ça ne marchera pas. La démocratie fantasmée rituelle en Europe ne marche pas en Europe, elle ne marche pas aux États-Unis, personne n'y croit. Il n'y a que les Africains que pour, et je, quand je dis les Africains, je m'inclus dedans, j'inclus le Maghreb évidemment, hein. Il n'y a encore que les Africains que pour être dans cette illusion, parce que nous sommes encore colonisés, nous pensons toujours avec la tête du blanc. Tant qu'on ne changera pas ça, on ne peut avoir aucun espoir de jouer dans un jeu où tout est fait pour que nous soyons les derniers du classement. Donc il faut redessiner un autre espace et redéfinir d'autres jeux démocratiques.
Sougel Chicha, Kerwin Maïzo, on arrive à la fin de notre entretien. Je vais vous passer la parole pour des perspectives, et je veux vous demander de répondre à la question suivante. Quel avenir pour la démocratie? Mais avant de vous donner la parole, je voudrais, si vous permettez, faire passer une annonce.
Bonjour à tous, mon nom est Magloire Pembi, c'est pour le journal de Kisantu. Merci de prendre le temps de m'écouter pour une ou deux minutes. Je voudrais vous parler d'un projet éditorial qui s'intitule Kisantu Kietu. Kisantu Kietu, c'est un projet éditorial qui est très simple. Il s'agit de raconter Kisantu par des gens qui ont vécu, qui connaissent, qui vivent, qui travaillent sur Kisantu. En fait, ça va se présenter comme ceci. Ce sera un livre de 250 à 300 pages, dans lesquels des auteurs divers pourraient raconter un fait culturel, un fait sociologique, un fait d'actualité, un fait sportif. Bref, ils ont vraiment carte blanche pour parler de quelque chose qui concerne Kisantu, qui parle de Kisantu, qui raconte Kisantu. On va vous demander de nous envoyer un texte qui ferait minimum 5 pages, maximum 30 pages. Dans ce texte, vous parlez de Kisantu selon l'angle que vous voulez, vous abordez le thème que vous voulez, et ce recueil de textes sera publié autour du mois de juillet, disons, on va dire le 15 juillet 2022. Donc vous avez jusqu'au 30 mai 2022 pour nous communiquer vos textes. Vous les envoyez à l'adresse email afropanorama@gmail.com. Nous prenons tous les textes pourvu que ça concerne Kisantu, que ça parle des faits de Kisantu, et ces faits, je le répète, ils peuvent être sociaux, culturels, politiques, sportifs. Vous avez vraiment carte blanche pour raconter Kisantu. Merci de bien vouloir participer et nous serons heureux de vous compter parmi nos auteurs. Merci, portez-vous bien.
Voilà, Kisantu, c'est, je vais le dire pour Souel, qui ne connaît peut-être pas, C'est la ville où j'ai étudié, où j'ai fait la faculté de médecine. C'est une très belle petite ville. Alors, je vous lance une invitation à vous deux. J'espère que l'occasion se présentera. Il faudra qu'on aille passer quelques jours ensemble là-bas. Il y a un très beau jardin botanique. Il y a une très belle cathédrale à visiter et c'est un endroit pour moi merveilleux. Et donc, dans ce projet littoral, je demande à ceux qui ont connu Kisantu, ceux qui vivent à Kisantu, ceux qui ont vécu Kisantu, de parler de cette ville et on va publier ça au mois de juillet. Donc, on va revenir à notre thématique. Je vais vous passer la parole à l'un à l'autre, à Kerwin puis à Suel. La question, elle est toute simple. Quel avenir pour la démocratie en Afrique?
Voilà, vous avez parlé de Kisantu tout à l'heure. Les Belges de Charleroi doivent connaître parce qu'il y a quand même un scandale. Dans l'affaire du Ferco, il y a tout un comptable belge qui a disparu dans ce jardin. Et tout le monde, c'était un silence assourdissant parce que c'est vraiment un gros scandale. Et curieusement, les autorités belges rasent les murs. Allez sur Internet chercher l'affaire Duferco et vous verrez une certaine princesse Maniema Krampa, une Rwandaise, qui se retrouve avec des mines. Et lorsque le scandale a éclaté, son mari éphémère, le comptable belge, disparaît dans le jardin et tout le monde s'éteint. Et un journal publie que la Rwandaise serait décédée, mais enterrée nulle part. Bon, ça c'est tout un dossier. Faites vos recherches sur Internet. Et vous trouverez. Bon, comme je ne sais pas faire de l'équitation, je sais qu'il y a quand même un beau lodge à Kisantu où on peut faire de l'équitation. Peut-être que j'apprendrai sur place. Bon. Quel avenir pour la démocratie, c'est au moins en dehors des scandales tels que dont je viens de parler. Bon, l'avenir pour la démocratie, en général dans le monde, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Parce que c'est un système politique qui est appelé à évoluer et qui accompagne l'évolution du monde. Donc la démocratie va s'adapter à l'évolution du monde, surtout à l'évolution culturelle et économique du monde. Et qui dit évolution culturelle et économique, je pense aussi à ce nouveau monde numérique que nous avons et qui impacte d'une certaine manière la démocratie. Je vois qu'il y a beaucoup de politiciens qui communiquent sur Instagram, qui ont des pages Facebook, qui, chaque fois qu'il y a un problème, par exemple, lorsqu'ils sont au pouvoir en Afrique, le premier réflexe, c'est de couper Internet, parce qu'Internet dérange. On n'est plus à l'époque de la toute-puissance de la radio nationale. Maintenant, il y a des chaînes YouTube qui peuvent tenir la dragée haute à des télévisions nationales. Certaines de mes émissions ou certains de mes collègues ont plus d'audimat que certaines grandes émissions de la télévision nationale. Donc, du coup, on devient comme ça des leaders d'opinion. Ce qui était le travail de certains grands journaux, de certaines grandes télévisions. Donc, je suis optimiste par rapport à l'avenir de la démocratie. Mais cet optimisme est tempéré par ce que je vois. C'est-à-dire cette prépondérance de l'économie sur la politique ou sur les politiques. Cette prépondérance a fait que certaines puissances de l'argent ont pris en otage la démocratie. Qu'est-ce qu'on met en place comme mécanisme pour limiter cette puissance? Ça, c'est la grande question. Il n'y a pas de mal à imiter ce qui est bon dans un pays comme dans un autre. J'apprécie beaucoup quelque chose qui se déroule en Suisse. En Suisse, ils ont beaucoup de référendums qu'ils appellent des votations. Pour un oui ou pour un non, ben, on va faire une votation. Est-ce que vous êtes d'accord ou n'êtes pas d'accord? Et lorsque vous allez dans le Parlement fédéral suisse ou même dans des parlements régionaux, vous allez remarquer que ces parlements sont à l'image de la population. Là-dedans, on voit des enseignants, on voit des agriculteurs, on voit des anciens conducteurs de train, des gens qui, lorsqu'ils développent un sujet, on sent vraiment qu'ils vivent ces sujets. Ce n'est pas quelqu'un qui est allé lire un livre ou qui a papoté pendant 20 minutes avec les agriculteurs, ou qui est allé se montrer dans les salons de l'agriculture à Paris pour prétendre connaître le monde agricole, ou quelqu'un qui a fait un petit voyage rapide en Afrique, qui a visité un grand hôtel dans la capitale, et qui vous parle de l'Afrique à la télé comme s'il connaissait l'Afrique. Mais c'est des personnes qui connaissent leur sujet à fond. Je pense que si on prenait ces modèles dans beaucoup de pays, c'est-à-dire beaucoup de référendums, pour poser de temps en temps certaines questions à la population directement, une espèce de démocratie directe, et faire en sorte que les gouvernements, les parlements, au-delà de la compétence qui doit être exigée, au-delà peut-être de l'expérience qui peut être extrêmement nécessaire, qu'on ait aussi des gens qui maîtrisent de par leur expérience de vie, par leur expérience professionnelle, certains pans de la vie nationale, c'est des gens qui, une fois au Parlement, seront plus efficaces que quelqu'un qui a étudié cela sur Internet ou dans une université ou dans un livre. Donc, je suis optimiste, mais cet optimisme est tempéré par le réalisme, c'est-à-dire la toute-puissance des forces de l'argent, des forces de l'argent qui ont pris en otage la démocratie et les populations.
Merci Kerwin. Suel Chicha, quel avenir pour la démocratie en Afrique notamment?
Bon, alors, comme j'avais commencé par faire un distinguo entre l'État et la démocratie, donc pour bien montrer que ce n'est pas la même chose, je voudrais terminer là-dessus. Donc l'État en Afrique a été d'abord un État colonial, c'est-à-dire qu'il s'est basé sur la négation des Africains. Sa perpétuation aujourd'hui n'a jamais été de promouvoir la démocratie, puisque nous sommes d'accord tous les trois pour dire qu'au contraire, il s'est construit de manière antidémocratique. Bon, je suis aussi d'accord avec Kerwin pour dire que il n'y a pas de mal à imiter. D'ailleurs, c'est ça l'histoire humaine. Hein, c'est l'Afrique qui a civilisé d'abord le monde et les idées depuis voyagent et circulent. On peut citer l'expérience de la Suisse, mais on peut aussi citer l'expérience du zapatisme au Chiapas, où des populations qui ont subi, avec lesquelles on peut faire un certain parallélisme avec l'Afrique, c'est-à-dire qui ont subi le colonialisme dans sa dimension la plus dure, ont développé des manières de démocratie directe, c'est-à-dire que là, on n'est plus dans le rituel de la démocratie, mais on est réellement dans une démocratie directe, c'est-à-dire que les gens incarnent la démocratie dans leur quotidien et dans leur action quotidienne, pas juste dans un plateau de télévision. Et donc, la démocratie directe est porteuse d'espoir. La contestation de l'État en Afrique est porteuse d'espoir également, par sa jeunesse, par ses intellectuels, par ses artistes. Et ce que tu fais, Mawadi, est porteur d'espoir. Donc, comme je l'avais dit en introduction, et je terminerai par là, en tant qu'Africain, je suis très content aussi de pouvoir être en débat avec Kerwin, parce que nous n'avons jamais eu avant, alors que nous vivons tous les deux en Belgique, l'occasion pas même de se rencontrer, ce qui est bizarre au vu du parallélisme de nos opinions. C'est quand même très étonnant. Voilà, donc, je ne sais plus qui disait pessimisme de raison, mais optimisme de cœur.
Merci, c'est par ces citations-là qu'on va terminer. Merci Suel Chicha d'avoir accepté d'être avec nous là ce soir. Merci à toi Kerwin, avec le décalage horaire, il est très tard chez toi, mais merci d'accepter de dormir si tard, c'est pour la bonne cause. Merci en tout cas. On va remercier notre ami Vianney Misumbi qui assure la régie, et on va aussi remercier une amie qu'on ne voit pas à l'écran, qui est assez discrète. Elle s'appelle Danielan Charles. Je vous assure qu'elle accompagne cette aventure depuis le début, même si elle reste un peu discrète. Donc, c'était le collimateur de l'actualité. Je suis Magloire Mbembi. Retrouvez-nous sur la chaîne YouTube de Kerwin Maïso, sur www.sudglobalradio.net. et sur toutes les plateformes de podcast. Abonnez-vous, commentez, partagez et merci de nous rester fidèles. À la fois prochaine.